écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. La saison de Formule 1 redémarre ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn. On verra avec notre spécialiste quels seront les enjeux cette année. Le Soir répond à vos questions sur les élections. C'est le retour de l'opération Pourquoi ? On vous explique comment ça marche dans un instant. Mais d'abord, le budget mobilité, l'alternative à la voiture de société à 5 ans. On fait le bilan. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le budget mobilité fête ses 5 ans d'existence. L'outil permet aux travailleurs qui bénéficient d'une voiture de société d'abandonner ce véhicule contre différentes possibilités. Mais est-ce que cela fonctionne ? Les employés sont-ils demandeurs ? Les employeurs sont-ils séduits ? On va voir tout ça avec Cécile Danjou, journaliste au pôle économie.
Bonjour Cécile.
Bonjour Pierre.
On est donc 5 ans après la création du budget mobilité. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est ce budget mobilité ?
Alors le budget mobilité, donc, ça s'adresse aux travailleurs qui bénéficient d'une voiture de société. Et donc l'idée, c'est d'échanger cette voiture de société par un budget équivalent que l'employeur va calculer.
C'est le système qui a remplacé le principe du cash for cars qu'on connaissait qu'il y a quelques années.
Voilà, donc avant le budget mobilité, il y avait donc ce fameux système de cash for car qui a été un flop. Donc là, il s'agissait juste d'échanger sa voiture de société contre seulement du cash, en fait. Alors que le budget mobilité, il est plus large, en fait. On peut échanger contre plein d'autres solutions.
On va y venir dans un moment, expliquer quelles sont toutes les possibilités. Juste avant, pour se faire une idée du succès ou du non-succès de ce budget, quand on se plonge dans les chiffres, est-ce qu'on remarque une progression ? C'est un principe qui séduit de plus en plus de travailleurs ?
Alors ça séduit de plus en plus de travailleurs, ça c'est indéniable. On a des chiffres qui doublent d'année en année. Par contre, les chiffres absolus sont vraiment ras des pâquerettes. On a peu de travailleurs qui utilisent le budget mobilité, qui ont choisi de remplacer leur voiture de société. On a aussi peu d'employeurs qui le proposent. Mais donc, pour revenir aux travailleurs, les derniers chiffres qu'on a datent de 2022 et sont délivrés par le SPF Finance. Et ils notent que 6500 travailleurs ont bénéficié du budget en 2022. Donc 6500, c'est vraiment pas beaucoup. Et d'autres chiffres donnent un pourcentage, une proportion. Donc on serait à 0,4% des travailleurs qui bénéficieraient du budget mobilité. Donc versus la voiture de société qui est à peu près à 25% des travailleurs, c'est évidemment pas beaucoup du tout.
Si on se concentre sur le contenu, ça consiste en quoi ce budget mobilité ? Imaginons que je suis un travailleur qui bénéficie d'une voiture de société, contre quoi est-ce que je peux l'échanger ?
Donc ça fonctionne par piliers, donc tout ça est encadré par la loi. Le premier pilier, c'est on échange sa voiture de société contre une voiture verte, plus respectueuse de l'environnement, mais plus petite aussi, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est on échange sa voiture de société contre un panel de solutions de mobilité durable. Et le troisième pilier, c'est tout simplement on échange contre du cash. On peut échanger contre un pilier, mais on peut aussi dire, j'ai 800 euros par mois, je mets un peu dans le deuxième pilier, un peu du cash, et puis prendre quand même une petite voiture plus petite. Voilà.
Et parmi ces trois piliers, c'est le deuxième qui est vraiment le chouchou, qui est celui qui est plébiscité par les employés ?
Voilà. Alors le premier pilier, on voit qu'il n'est pas tellement utilisé, le troisième non plus. Alors pourquoi le troisième n'est pas beaucoup utilisé ? Parce qu'en fait, il est assez taxé à 38%. On retient des cotisations sociales dessus. Et alors, le deuxième pilier, c'est celui qui est le plus utilisé parce qu'il permet d'échanger, d'utiliser son budget pour plein de solutions de mobilité durable. Donc, c'est aussi bien un abonnement de train, un abonnement de transport en commun, du taxi, acheter un vélo, prendre un vélo en leasing. Ça peut être aussi tout simplement faire un trajet en trottinette, faire un trajet en taxi, en Uber. Ça peut être aussi louer une voiture et ça fonctionne partout en Europe. Ça fonctionne aussi pendant les vacances. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et alors, la grosse dépense qu'on a le droit de faire avec le deuxième pilier et qui est très plébiscité par les utilisateurs, c'est qu'on peut se faire rembourser ses frais de logement. Donc, en gros, on peut utiliser le budget pour payer son loyer ou son prêt hypothécaire. Et ça a beaucoup de succès.
Il y a quand même certaines conditions pour celle-ci, notamment il faut habiter près de son lieu de travail.
Voilà, ouais, il faut alors ça a été revu à la hausse, mais donc il faut quand même habiter à moins de 10 km de son lieu de travail. Ou alors, deuxième possibilité, faire du travail au moins 50% du temps.
Vu comment vous nous présentez le budget mobilité, ça a effectivement l'air assez intéressant. Comment peut-on expliquer alors ce démarrage relativement lent ?
Ben alors, il y a plusieurs explications. Hein. Donc, on a eu plusieurs interlocuteurs au téléphone qui nous ont donné un petit peu leur point de vue là-dessus. Il y a déjà le fait qu'il n'est pas si vieux. Alors, ça fait 5 ans qu'il existe. Il y a eu le Covid, donc on ne parlait plus beaucoup de mobilité pendant le Covid. Donc, finalement, ça fait qu'une grosse année et demie qu'il est vraiment d'application et il est encore peu connu des travailleurs ou des employeurs. Il y a aussi tout simplement le fait que les gens sont attachés, je crois, à leur voiture de société. Hein. Puis, quand on roule beaucoup, on n'a pas vraiment l'intérêt en fait de convertir en budget mobilité sa voiture de société. Et alors une autre explication, c'est qu'il est il est assez compliqué à mettre en œuvre pour les entreprises, parce que voilà, imaginez quelqu'un qui utilise le deuxième pilier, donc il va faire un trajet en trottinette, acheter un billet de train, faire un trajet en taxi, et il va devoir envoyer tous les tickets au service RH de son entreprise, qui va devoir tout compter, le déduire de son budget, donc c'est de la paperasse administrative énorme. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « Oh bah non, pour l'instant je garde la voiture de société, c'est bien ». Après, il y a des évolutions, il y a par exemple des services externes qui se développent, donc des petites start-up qui permettent aux entreprises, qui proposent aux entreprises de mettre tout ça en place et de gérer le côté administratif. Et donc on a par exemple des cartes de paiement, un peu comme les chèques repas, qui apparaissent et on peut voilà payer son trajet de trottinette ou payer sa location de vélo ou son Uber avec ce type de carte.
Vous l'avez dit au début, en chiffre absolu, l'utilisation du budget mobilité, elle reste relativement marginale, mais la proportion d'employés qui l'utilisent augmente tous les ans. Si on se tourne vers l'avenir, on peut espérer que ce chiffre va continuer à augmenter et qu'au fur et à mesure des ans, il y aura de plus en plus d'employés qui seront séduits par le principe.
En tout cas, les interlocuteurs qu'on a eus au téléphone le croit fortement. D'abord parce qu'il y a les jeunes. En fait, le budget mobilité intéresse surtout les jeunes. Et oui, c'est logique. Hein. Forcément, les jeunes ils sortent de leurs études, ils n'ont pas spécialement envie d'avoir une voiture de société. Ils sont beaucoup plus intéressés par les solutions alternatives. Et puis alors, aussi, les secrétariats sociaux observent de plus en plus de questions sur le budget mobilité. Donc, il y a vraiment, même dans les entreprises, on voit que la politique de gestion de la mobilité, elle est de plus en plus de réfléchir aux solutions qu'on peut proposer aux travailleurs, etc. C'est aussi un moyen d'attirer les talents hein, pour dans des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre, alors on peine à recruter les bons candidats, c'est un avantage qu'on peut proposer. Et puis alors, ça pourrait venir du politique aussi, hein, parce qu'il y a eu en début de législature la volonté d'élargir ce budget mobilité à tous les travailleurs. Hein, donc on rappelle bien qu'aujourd'hui, c'est juste pour les travailleurs qui ont une voiture de société. Donc ça n'a pas été traduit en pratique, mais voilà, pourquoi pas au cours de la prochaine législature.
On suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Cécile.
Merci.
Fin 2023, les journalistes du soir ont répondu à toute une série de questions posées par les abonnés. Des questions sans filtre, sans tabou et avec une seule contrainte, celle de commencer par le mot « pourquoi ». Dans la perspective des élections fédérales, régionales et européennes, la rédaction a relancé cette boîte aux questions. D'ici au 9 juin, nous répondrons à une question par jour. Xavier Kounas, chef du pôle enquête, est passé en studio pour nous expliquer l'opération.
Bonjour Xavier.
Bonjour Pierre.
C'est le retour de l'opération « Pourquoi ». Pourquoi justement est-ce que le soir a décidé de relancer cette possibilité pour les lecteurs de nous poser leurs questions?
Parce que franchement, d'abord, on était très satisfaits de la première fois, de la première fournée, de la première opération, à la fois au sein de la rédaction, mais je pense qu'on a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, lecteurs, abonnés, de gens qu'on croise qui nous disaient « Oh, c'était génial, continuez, publiez-les dans un livre ». Enfin, franchement, c'est assez rare d'avoir des retours comme ça. Donc, l'objectif de l'opération initiale, c'était vraiment de se dire « On tente de lancer une perche, de se reconnecter un peu plus encore avec lecteur, l'abonné, c'est une des façons de le faire, d'écouter les questions, les thématiques sur lesquelles il aurait envie qu'on lui réponde, et puis nous derrière de faire notre travail journalistique pour essayer d'apporter les réponses les plus précises. Et donc une de nos promesses, hein, le rédacteur en chef l'avait écrit d'ailleurs à la fin de la première opération, c'était de se dire c'est pas une fin, un point final et on fermeture de rideau, on y reviendra un jour sans doute avec des thématiques spéciales. Et ben les occasions ici, le méga scrutin du 9 juin 2024 est sans doute une des meilleures occasions de faire un pourquoi thématique, d'où l'idée de redire à tous nos lecteurs, à tous nos abonnés, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions, elles doivent commencer par pourquoi, et contrainte supplémentaire, elles doivent parler ou concerner de près ou de loin les élections, et on va tenter d'y répondre.
Parce que là, si l'opération recommence ce vendredi, c'est parce qu'on est très exactement à 100 jours de ce fameux méga scrutin. Là, l'idée, pour tous ces pourquoi qui seront publiés, on publiera des réponses de façon quotidienne jusqu'au scrutin. C'est uniquement des questions liées aux élections ?
Oui, c'est ça. On prend alors évidemment toutes les questions très politiques, comment fonctionne le scrutin. Les gens peuvent nous poser des questions et qui n'hésitent pas à aller au sens assez large, donc sur des thématiques de campagne, sur des points de désaccord entre différents partis. Bon, après, si on reçoit une question pourquoi la Terre est ronde, forcément, elle va passer dans le premier tri, dans les questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et on s'excuse déjà, donc enfin, on encourage évidemment tout le monde à nous poser les questions. On relève cette boîte quotidiennement. On encourage vraiment vivement nos lecteurs à nous poser des questions sur l'actu, parce que ça nous permet aussi de réagir et d'être dans le show, c'est une de nos marques de fabrique quand même au soir, mais on ne saura pas répondre à tout le monde, donc on fait de notre mieux, on prend les thèmes, il y a des questions qui reviennent à plusieurs reprises, voire déjà des dizaines de fois, donc évidemment celles-là seront traitées et on y répondra, que les gens ne se frustrent pas, on fait notre max, et donc il y aura, oui je pense on s'engage en tout cas à une fois par jour répondre à un pourquoi chaque jour, et même pour démarrer à partir d'ici à J-100 vendredi, et encore même pour samedi on en a fait un peu plus, vous en aurez un peu plus que pour le démarrage.
Ça vaut la peine de le dire, la boîte à questions entre guillemets, elle n'est pas fermée, on peut continuer à poser des questions et jusqu'au 8 juin à 23h on peut continuer à vous envoyer des pourquoi.
Oui, qui sait, on la laissera même peut-être un peu ouverte après, vu qu'il y aura sans doute beaucoup de questions a posteriori sur l'élection, mais là oui, l'engagement qu'on prend, et c'est différent par rapport à la première fois, c'est que les gens vont continuer à pouvoir nous poser des questions en live jour après jour, donc sur l'actu on ne ferme pas cette boîte et on la relève quotidiennement à la réunion de rédaction qui a lieu chaque matin au soir à 10h. Et bien on se posera le moment pourquoi en se disant tiens, quelle est la question qu'on prend aujourd'hui, et voilà, parfois ce sera peut-être des questions un peu originales ou sorties de nulle part, mais on privilégiera vraiment les questions qui sont un rebond ou une façon d'amener une question d'un lecteur sur un sujet qui est en plein dans l'actu ou dans la thématique de la semaine par exemple.
Pour les lecteurs qui veulent nous envoyer des questions, c'est extrêmement facile. Il y a un formulaire qui se trouve à l'adresse lesoir.be/pourquoi. Une dernière petite chose, Xavier, toutes les questions auxquelles on a répondu dans la première phase des pourquoi, on peut encore retrouver ces réponses ?
Oui, alors c'était ça qui était, je vais pas dire un peu inquiétant au début, mais quand on a vu, là il y en a déjà plus de 700 qui sont arrivés, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en fait reposent des questions auxquelles on a déjà répondu la première fois sur le monde politique. Donc on n'allait quand même pas réinventer la roue, donc on a fait un petit moteur de recherche interne, vous verrez sur notre site, on le mettra dans tous les articles, où vous pourrez quand même aller naviguer dans les anciens pourquoi. Donc excusez-nous ceux qui nous ont par exemple redemandé pourquoi on ne peut pas voter pour un candidat flamand par exemple, et bien on avait déjà répondu à cette question précédemment, je crois qu'il y a encore une dizaine de personnes qui l'ont posé, allez voir nos archives, mais on va vous donner un petit lien pour aller le voir. Il y a beaucoup de questions similaires, hein, pourquoi le vote est-il obligatoire, ça vous aurez la réponse qui arrive, et quand même un petit attention à voir, parce que dans les pourquoi sans doute la question qui revient le plus chez nos lecteurs pour l'instant, c'est pourquoi est-ce que je suis obligé d'aller voter, pourquoi ça sert encore à quelque chose d'aller voter. Donc on sent quand même ce désintérêt, bon, qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs qui le montrent, mais qui est toujours quand même pas très rassurant, et qui pour la campagne à venir laisse présager peut-être un taux d'abstention, sans tirer des conclusions sur notre... on n'a pas fait un sondage Ipsos, hein, on s'entend, mais ce ras-le-bol quand même sur le fonctionnement continue à monter. Donc voilà, enfin, des questions qu'on va traiter, et puis vraiment j'appelle tous les abonnés à oser des questions un peu folles, des questions qui sortent, voilà, qui nous surprennent aussi, nous c'est agréable de se dire oh, tiens, ça on n'aurait pas osé, ça on n'aurait pas fait. On les attend et on les traitera du mieux qu'on peut.
Et on y répond dès ce vendredi. Merci beaucoup Xavier.
Merci.
C'est parti pour une nouvelle saison de Formule 1. Avec 24 Grands Prix, c'est l'exercice le plus long de l'histoire et il commence ce samedi à Bahreïn. Une saison de transition sans grande nouveauté technique. Une saison où on va certainement beaucoup parler du transfert annoncé de Lewis Hamilton chez Ferrari pour l'année prochaine. Thierry Wilmot couvre la Formule 1 pour le Pôle Sport. On préface cette saison avec lui.
Bonjour Thierry.
Bonjour Pierre.
Coup d'envoi donc pour cette nouvelle saison de Formule 1. Une question assez générale pour commencer. À quoi quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour cette saison ? Ce sera, comme d'habitude, la course derrière Max Verstappen ?
Tout le monde le craint, évidemment. C'est clair qu'avec ce qu'il a montré l'année dernière, avec ce que Red Bull a montré l'année dernière, et avec ce qu'on a vu lors des essais, des très courts essais qui ont eu lieu la semaine dernière à Bahreïn, avec 3 jours d'essais seulement, mais on a pu voir qu'en performance et surtout de nouveau en qualité de long relais, la Red Bull va sans doute être de nouveau la référence. Et si la Red Bull est de nouveau la référence, ben, sans se tromper, Max Verstappen sera de nouveau le grand favori de cette saison, oui.
Il y a des choses un petit peu particulières auxquelles il faut être attentif pour cette année. On le sait, ça va être une saison particulièrement longue.
Mais oui, en effet, on est déjà au fait au début de la saison. Ce sera dès ce samedi 2 mars, je dis bien samedi, parce que les deux premiers Grands Prix vont avoir lieu le samedi, tant à Bahreïn ce week-end-ci que le week-end suivant en Arabie Saoudite, à Jeddah, pour cause de Ramadan. Et ben oui, c'est une saison qui va se terminer le 8 décembre seulement, de nouveau dans ce coin-là du monde, à Abu Dhabi. Et donc, entre les deux, on aura 24 Grands Prix. C'est la première fois qu'une saison est aussi longue. Cette fois-ci, on ne devrait plus craindre des annulations comme on en a eu ces dernières années, particulièrement du Grand Prix de Chine, par exemple, ou quoi. Et donc, on doit s'attendre d'abord à pouvoir gérer une longue saison comme celle-là. C'est dur pour les pilotes, mais c'est surtout dur pour les équipes. Et donc là, on pourrait peut-être assister à certaines choses par rapport à certains enchaînements qui seront plus pénibles que d'autres. Quant au reste, ben, on va surtout espérer que les autres équipes ont réussi à un petit peu se mobiliser pour réduire cet écart avec cette fameuse écurie de référence. Et on pense évidemment en priorité aux écuries Ferrari qui semblent avoir quand même bien progressé. Et derrière, tout près derrière, on pense de nouveau à Mercedes et Aston Martin qui sont les deux écuries qui pourraient... Non, j'en oublie une, excusez-moi, j'oublie McLaren qui, elle aussi, pourrait peut-être de temps en temps profiter d'une l'une ou l'autre circonstance pour se montrer.
Les années précédentes, elles avaient été marquées notamment par l'introduction de nouveaux règlements, l'introduction de nouveaux éléments dans les voitures. Cette année, il n'y a rien qui pourrait venir jouer le trouble fait ?
Rien de neuf. Strictement rien de neuf au niveau technique. Et alors, strictement rien de neuf au niveau des pilotes aussi. On a 20 pilotes qui sont exactement dans le même baquet que l'année dernière. Ça, c'est aussi une première en Formule 1 après les 24 Grands Prix sur une seule saison. On a 20 pilotes qui n'ont pas bougé. Donc ça, de ce côté-là, pas de nouveauté. Alors évidemment, il y a une chose, c'est que je parlais de la force qu'auront ou pas les équipes à tenter de réduire l'écart avec Red Bull. Il est lié au fait que ben, la plupart des autres équipes ont copié finalement la Red Bull de l'année dernière. Et de manière assez amusante et paradoxale, ben, la Red Bull, elle, ou plutôt c'est évidemment le fait des équipes qui dominent, eh bien elle s'est trouvée un peu plus novatrice, elle s'est montrée un peu plus novatrice dans le dessin de sa monoplace. Et donc ça fait partie du challenge, on peut s'attendre à une certaine convergence des forces et donc peut-être ça va aider à ce rapprochement. Maintenant, je ne sais pas si je vous en parle en disant quelque chose qui va se réaliser ou plutôt dans un espoir de voir cette Formule 1 évidemment être beaucoup plus disputée qu'elle ne l'a été l'année dernière.
Alors c'est pas pour tout de suite, mais c'est la nouvelle qui était évidemment sur toutes les lèvres des fans de F1 ces dernières semaines. Le transfert annoncé de Lewis Hamilton dans l'écurie Ferrari pour la saison 2025, ça pourrait déjà produire quelques petites étincelles cette année.
Alors c'est pas pour tout de suite, mais on ne parle que de ça, effectivement. C'est vraiment l'info de l'intersaison. Personne ne l'a vu venir et bravo pour l'effet d'annonce de Lewis Hamilton et de l'écurie Ferrari. Effectivement, je pense sincèrement que ça ne va pas changer grand-chose pour ce qui sera de l'approche de Lewis Hamilton sur cette saison-ci avec Mercedes. S'il a évidemment l'occasion de gagner des courses, s'il a l'occasion, rêvons, de ceindre cette 8e couronne mondiale qui lui a échappé, on sait dans quelles circonstances, à la fin de la saison 2021, ben, il n'hésitera pas. Et ce n'est pas parce qu'il roulera pour Ferrari l'année suivante qu'il se gênera pour piquer Charles Leclerc au freinage ou empêcher Carlos Sainz de signer un bon résultat, ça c'est certain. Maintenant, ça va surtout bousculer toute la saison au niveau du marché des transferts parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui vont vouloir bouger, il y a beaucoup de pilotes qui vont vouloir se montrer pour prendre la place chez Mercedes, évidemment. George Russell est confirmé chez Mercedes pour les années suivantes, mais il y a un baquet vacant dans une écurie de pointe et il y a beaucoup de pilotes qui vont se montrer. Quant à Charles Leclerc, ça ce sera intéressant également parce que lui aussi, ben, il était certainement conforté dans son rôle numéro 1 chez Ferrari. Il venait de signer un contrat à longue durée, on parle de 2028, pour dire que c'est un joli bail. Et là, tout d'un coup, ben, il sait qu'à partir de l'année prochaine, il va être méchamment bousculé par un certain Lewis Hamilton. Donc là aussi, je pense que lui va profiter ou va tenter de profiter de cette saison 2024 pour continuer à montrer que c'est bien lui le patron chez Ferrari, ce qui sera fortement remis en question par notre ami Lewis dès l'année l'année prochaine.
Il y avait une certaine forme de logique à voir Lewis Hamilton, un des plus grands pilotes de l'histoire, rejoindre l'écurie la plus prestigieuse.
Michael l'a fait avant lui, d'autres ont essayé, hein, Alonso, Vettel, ils sont tous passés par la case Ferrari. Qu'est-ce qu'il y a de plus mythique que quand on est pilote de Formule 1 que de rouler pour Ferrari? Et c'est un petit peu l'explication de Lewis Hamilton. Il s'en est ouvert la semaine dernière pendant les essais et il a dit qu'effectivement c'était un... Alors ils évoquent tous le rêve d'enfance, alors on ne sait pas à quel moment ce rêve a lieu, si c'est à la toute petite enfance ou un peu plus tard ou quoi. Okay. Toujours est-il qu'un pilote de F1 vêtu de rouge qui rentre dans une voiture rouge, c'est le Graal, c'est le moment attendu et fatalement il n'a pas pu passer à côté, même s'il aura vécu pendant 26 ans avec l'étoile Mercedes brodée sur sa combinaison, que ce soit en karting, dans les formules de promotion ou bien sûr dans l'écurie Mercedes avec laquelle il a gagné tant de titres et tant de grands prix.
Merci beaucoup Thierry.
Avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À lundi.